ça. Alors moi, je peux dire que je fais partie des privilégiés. Je suis allée à Mons. Je suis allée très peu à Mons. J'y suis allée seulement, je crois, une journée. Et pourtant, j'ai le sentiment d'y avoir été très longtemps et d'avoir été d'emblée comme chez moi, dans cette école. Et une des raisons de mon intérêt pour ces deux jours, c'est d'arriver à mieux comprendre ce qui s'est passé quand je suis arrivée avec une ethnologue mexicaine et une doctorante brésilienne à qui je voulais présenter une école Freinet parce qu'elles n'avaient pas d'idée de ce que c'était concrètement alors qu'elles avaient lu des tonnes de choses là-dessus et que je les ai accompagnées pour leur faire voir. Et quand on est revenu à Paris, elles m'ont interviewée au moins 5 jours de suite pour me demander des explications sur des choses que je ne savais pas et sur lesquelles je leur répondais d'après d'autres expériences Freinet que j'avais vécues, en disant peut-être que. Et je me suis rendu compte à quel point, à la fois, il y avait là une structure qui m'était familière, et en même temps, un cas qui était totalement singulier. Et je suis restée avec, un sentiment de faire partie de la famille, même si les gens, je les avais rencontrés pour la première fois très fugitivement, et je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais en même temps, le sentiment qu'il me manquait un nombre d'informations gigantesques sur le mode de constitution de l'école, même si François Jacquet-Francillon, qui était mon collègue et qui est un ami de l'inspecteur, M. Gière, m'avait aussi donné des éléments d'information depuis déjà le début de la naissance de cette expérience, que j'avais donc suivi par récits successifs, mais fragmentaires. Donc, voilà pour l'introduction de ces curiosités sur une étude de cas et en même temps un héritage, enfin, quelque chose qui est dans une tradition pédagogique qui justifie à la fois la nouveauté, la singularité et une étude de cas quand même dans une structure qui a une histoire longue. Donc on m'a demandé à... quand je suis allée, je crois que c'était la dernière année, Marcel, où tu étais directeur. Tu allais passer le flambeau à Sylvain l'année d'après. Elle a toujours été directeur officiel. Alors, monsieur le directeur, je vous laisse... officiel. Je te laisse la parole et peut-être te présenter plus avant de présenter ton intervention.
Oui, donc Sylvain Hennebique. Donc c'est vrai que le terme directeur prend déjà une connotation un peu particulière chez nous puisque on avait choisi dès le départ... d'avoir un partage des tâches, des responsabilités, et que l'ensemble du fonctionnement se faisait en coordination complète, puisqu'on a deux écoles administrativement, l'école maternelle, avec Fabienne Bureau, qui est directrice officielle de l'école maternelle Anne-Franck, et moi-même pour l'école élémentaire. Donc un partage des tâches, un partage du salaire, un partage des décharges. Donc le terme directeur prend déjà une dimension un peu particulière chez nous puisqu'il n'a pas, sauf sur des composantes institutionnelles et administratives, de sens plus particulier que celui-là. Donc l'école, le groupe scolaire Concorde comprend 4 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire. Et donc, on se situe à Mons-en-Barœul, qui est une commune de 23 000 habitants, limitrophe frontalière, on va dire, limitrophe de Lille, qui est une ville qui est en deux parties. Une partie urbaine, zone sensible, avec un réseau Ambition Réussite actuellement, et puis une autre moitié de la commune qui est où il y a plus de mixité sociale. Bien. On aura le temps de revenir sur un certain nombre de dispositifs de mise en place et puis sur les parcours éventuellement de chacun dans l'équipe, puisqu'ils ont conditionné quand même un certain nombre de possibilités de choix de travail de la part du mouvement Freinet, avec des parcours particuliers et un choix des enseignants qui sont sur cette école. Donc les 9 enseignants qui sont sur le groupe scolaire Concorde font partie du mouvement Freinet, ont été nommés sur un protocole particulier de nomination, ce qui en fait administrativement la seule originalité officiellement, puisque la seule particularité, je veux dire, au niveau administratif, a été une nomination sur protocole des 9 enseignants, on aura l'occasion d'y revenir également s'il y a des questions là-dessus. Je voudrais simplement donner un propos court d'une quinzaine de minutes sur le contexte et le montage institutionnel de l'équipe. Hein, et donc là, je parle sous couvert des écrits de M. Gier, puisque au départ, c'est M. Gier qui est l'inspecteur de la circonscription, qui devait donner compte rendu de cette partie montage institutionnel. Mmh. Hein, donc je parle sous couvert de son autorisation et des écrits qu'on s'est partagés pour expliquer un peu cela. Ensuite, dans un deuxième temps un peu plus long, c'est Isabelle Delcambre de Théodile qui pourra se présenter bien sûr après et qui parlera du pan recherche et laboratoire Théodile. Et dans un troisième temps, Daniel Torel et moi éventuellement de temps en temps, on expliquera le montage et les principes et les projets pédagogiques vus du côté enseignant. Donc trois temps. Un temps institutionnel, parole de l'inspecteur, sous mon couvert. Un temps Théodile, recherche, laboratoire. Et un temps équipe enseignante. Bon, ça c'est pour présenter le montage institutionnel et les contextes. Hein, ce qui nous permettra, je pense, cet après-midi de rentrer dans le contenu, dans le fonctionnement et dans les principes de manière plus précise. Alors, sur un bref rappel des conditions de création de l'expérience qui a démarré en septembre 2001, sur un premier protocole de 5 ans, donc 2001-2006, qui s'est ensuite reconduit et qui continue cette année sous des modalités un peu différentes avec le laboratoire. Mais donc c'est la 7e année de fonctionnement de l'école, en sachant que à la fois la majorité des écrits disponibles, en particulier sur le livre, font part des 5 premières années de protocole. Hein, et donc que la recherche, les réflexions, le travail continuent depuis 2 ans maintenant sur la 7e année. La création de l'école expérimentale résultait en fait de la convergence de plusieurs éléments. Alors avec des départs variables, plus ou moins importantes. Un premier point, c'est la volonté de M. Dunoyer, inspecteur d'académie de l'époque, de mettre en œuvre le plan d'innovation monté par le ministère Lang à l'époque sous le couvert du Conseil national de la réussite et de l'innovation scolaire, le CNIRS. Donc il y avait une opportunité institutionnelle par l'inspecteur de circonscription et l'inspecteur d'académie de mettre en œuvre, je veux dire, une possibilité de fonctionnement d'un groupe scolaire ou d'une équipe dite en innovation pédagogique. Une deuxième donnée qui était une demande très ancienne des mouvements freinés du Nord et du Pas-de-Calais, on peut appeler la régionale hein, de l'Institut coopératif de l'école moderne, de la création d'une école où la pédagogie freinée serait pratiquée sur tout le cursus primaire de 2 ans à 11 ans. Donc ça, c'était une volonté ancienne de notre part qui n'avait pas réussi à voir le jour pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra s'expliquer aussi ensuite. Et la troisième convergence, c'est le souhait pour l'inspecteur de circonscription d'introduire un élément de dynamisation dans les écoles du secteur, des collèges Rabelais, collège en rare de Mont-Saint-Barœul, classé en ZEB depuis 82, et qui connaissait des analyses de l'inspection un taux de retard, des taux de retard catastrophiques, des résultats très faibles aux évaluations nationales et un certain fatalisme sociologique chez les équipes enseignantes. Quatrième point, qui était une des conditions conjointes et négociées par l'inspecteur d'académie et par le mouvement freiné, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une équipe, un suivi universitaire et une équipe de recherche qui suivrait cette expérience depuis le départ, ce qui est assez rare, puisque en général, le peu d'études qu'il y a eu sur des pratiques alternatives ne se sont pas opérées au départ de l'expérience. Elles sont arrivées au moment où des expériences étaient déjà connues. Il y a donc eu une évaluation préalable. Et il ne s'agit pas, mais ça, Isabelle Delcamp le précisera de manière très claire, il ne s'agissait pas pour, d'une recherche-action. Hein, c'est, donc on a trois éléments, l'équipe Théodile, le laboratoire Théodile de Lille 3, une volonté institutionnelle de l'inspecteur de circonscription et de l'inspecteur d'académie, et une demande et un souhait du mouvement Freinet régional Nord-Pas-de-Calais. Donc là, je prends une partie du rapport d'étape de monsieur l'inspecteur, adressé à l'inspecteur d'académie et pris en compte dans les recherches de Théodile, sur un premier point qui était pour l'inspection un état des lieux de l'école en 1999-2000. Donc il y avait un état des lieux qui a amené l'inspection et l'inspection académique à proposer cette modification et cette mise en place d'équipes alternatives. Je rappelle donc sur un mode protocolaire qui était très particulier et assez caractéristique et complètement dérogatoire, puisqu'en fait les enseignants préalablement, donc peu étaient titulaires des postes, enfin bon, ça c'est. Ont été prioritaires au mouvement, c'est-à-dire qu'il y a eu une mesure équivalente à des mesures, une mesure administrative de fermeture, ce qui permettait aux gens d'avoir des facilités pour demander des postes qu'ils souhaitaient. De mémoire, sur les 9 enseignants, je crois qu'il y avait 3 titulaires. Et les autres personnes n'étaient pas forcément titulaires, y compris le directeur de l'école élémentaire. Et donc il y a eu administrativement l'équivalent d'une fermeture et ouverture des 9 classes avec une dérogation au mouvement, puisque les 9 personnes ont été proposées par le mouvement Freinet à l'inspection académique. Donc ça, c'est sur les conditions, administratives ça a mis un an pour se mettre en place avec un certain nombre de négociations qui n'ont pas toujours été simples, des négociations à la fois avec l'inspecteur d'académie et avec les syndicats et une préparation, des conditions de modification des conditions d'enseignement, enfin dérogatoire au mouvement, y compris aussi avec les parents, hein, puisqu'il y a eu un travail par l'IEN avec les parents l'année précédant notre arrivée et avec les enseignants en poste pour qu'eux puissent aussi trouver toutes les conditions qui leur permettaient de trouver les postes qu'ils souhaitaient avoir. Donc sur les conditions, le constat de départ de l'inspection qui a motivé le choix de cette école particulièrement, c'était un défi d'effectifs, puisque les effectifs avaient chuté de manière importante sur les 4 années précédentes de 1997 à 2000, passant en gros de 115 élèves à 85, donc administrativement on devait avoir une fermeture pour l'école élémentaire. À la rentrée 2001, un poste devait donc être fermé sur l'école, qui n'aurait plus compté que 4 classes sous le seuil de décharge, et à terme, les évolutions laissaient penser, puisque c'est une école qui était passée d'une vingtaine de classes pour l'élémentaire à 5 classes, en maternelle c'était un peu équivalent, puisque je crois qu'on était passé de 10 classes à 4 classes, c'est ça ? Donc il y avait une fuite importante des familles, en sachant que sur la ville de Mons-en-Barœul, il n'existe pas de carte scolaire, hein, comme sur la ville de Lille d'ailleurs. Donc une fuite des familles et un public qu'on nomme nous souvent un public captif, c'est-à-dire des familles qui n'ont pas la ressource, même quand ça dysfonctionne objectivement ou pas, de changer d'école. Hein, donc c'était un premier enjeu. Deuxième constat de l'inspection et de l'inspection académique, des retards scolaires importants. Des retards en année, hein, de 27% au CP en 99 et des classes de cycle 3 qui avaient des taux de retard supérieurs à 30% et montant jusqu'à 47% en CM2. Un niveau scolaire très bas au regard à la fois des bilans opérés par les réseaux d'aide, les RASED, sur les grandes sections de l'école Anne-Franck, et 72% des élèves en difficulté importante en grande section CP sur une série de tests et 40% d'élèves en difficulté très importante. le pronostic pour les 10 enfants équivalait à une prédiction d'échec quasi certain au cours préparatoire sur les tests effectués en 2000-2001 en grande section. Un niveau scolaire en élémentaire qui était également très préoccupant au dire de l'éducation nationale. Donc là, je me répète, hein, c'est le rapport de l'inspecteur. Ce n'est pas mon analyse. Bon, moi, d'abord, je n'étais pas là avant 2001. Donc en 99, l'écart au national aux évaluations CE2 était de moins 15% en lecture, par exemple, et moins 40% en production d'écrit. En 2000, l'école avait été suivie toute l'année par une conseillère pédagogique et on restait sur des écarts allant de 14 à 25% suivant les champs d'items aux évaluations. À la rentrée 2001, année du début de l'expérience, les scores aux évaluations 6e des élèves de l'école dans tous les champs du français avaient un écart supérieur à 10% en dessous de la moyenne nationale et supérieur à 15% en dessous dans les champs de mathématiques où on pouvait atteindre par moment 25 à 30% d'écart par rapport au national. Au niveau de l'équipe pédagogique, il y avait également un constat de l'inspection qui était que 2 enseignants sur 5 pour l'école élémentaire étaient nommés à titre provisoire. La direction était vacante. Donc il y avait un certain nombre de conditions qu'on retrouve dans un certain nombre de milieux dits sensibles ou difficiles, où des difficultés sociales, des difficultés d'apprentissage, des difficultés de gestion, y compris des violences, des incivilités, une perméabilité, je veux dire, des problèmes du quartier à l'intérieur. Vous savez qu'il y avait un certain nombre de problèmes importants également de violence qui avaient nécessité 2 années de suite des interventions de la part de l'inspecteur à la demande du directeur de l'époque, agression verbale, agression physique, etc. Ce constat a amené l'inspection académique et l'inspecteur de circonscription a proposé à la régionale Freinet cette école. Donc l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation, avait donc confié la constitution du dossier à l'inspecteur d'académie adjoint de l'époque, M. Cuvelier, qui avait fixé 3 conditions pour l'expérience. Première condition, les maîtres sont proposés par l'Institut coopératif de l'école moderne Nord-Pas-de-Calais après entretien avec l'inspecteur de la circonscription, le mode de nomination étant valide pour les 5 rentrées suivantes à partir de la rentrée 2001, reconductible si l'expérience s'avérait performante. Deuxième condition, un suivi interne à l'éducation nationale, effectué par l'inspecteur de la circonscription, sur des objectifs particuliers, remontée puis maintien des effectifs, réduction des retards scolaires ou amélioration des résultats des élèves, objectif fixé étant d'obtenir des améliorations selon au moins un de ces 2 derniers critères, il fallait que l'administration puisse noter des améliorations tangibles. Troisième condition, un suivi extérieur confié à un laboratoire de recherche indépendant du mouvement Freinet, le laboratoire choisi étant le laboratoire Théodile de l'Université de Lille 3, qui est dirigé toujours d'ailleurs par M. Yves Rotter. Évaluation externe qui était réalisée dans le cadre de ce qu'on appelle une ERTE, agréée par le ministère. L'ERTE, c'est...
Équipe de recherche technologique en éducation.
Voilà, ouais. Équipe de recherche technologique en éducation, agréée par le ministère et qui était financée par des crédits ministériels sur 3 ou 4 ans, avec un relais pris par l'IUFM Nord-Pas-de-Calais. Quatrième condition, M. Cuvelier, inspecteur d'académie adjoint, avait demandé à l'inspection de veiller en accord avec le maire de la commune qu'il n'y ait pas un afflux important d'élèves extérieurs à la commune afin d'éviter que l'expérience ne soit biaisée par un apport important d'élèves appartenant à des catégories sociales très différentes de celles de la ZUP de Mons de l'époque. Hein, donc c'était ça les conditions, ça. Je veux dire, institutionnelles, protocolaires, dans le protocole vu par l'inspecteur d'académie et l'inspecteur de circonscription.
Voilà. Ça veut dire en clair éviter l'arrivée de classes moyennes fanatiques, des supporters des Freinet.
Voilà. Ce souhait...
Il y aurait fait de la mixité sociale dans l'école.
Ce souhait et ces demandes de conditions de l'expérience... avait été bien entendu discuté, négocié avec le mouvement Freinet régional, puisque nous, on avait le souhait de s'implanter dans un milieu dit populaire, et également de garder sur les 5 années d'expérience de protocole, chose qui continue hein, maintenant, de garder la composition sociologique et l'idée de, d'école dans le quartier difficile, donc pas de modification. Alors, à la fois parce que pour le, les travaux du laboratoire, c'était important, et parce que pour nous, c'était aussi important de, d'éviter des, je veux dire, un type de fonctionnement, y compris d'école freinée, qu'on, qu'on a pu trouver, enfin, ou d'école alternative, qui peuvent quelquefois amener à un certain nombre de familles qui ont les critères et les stratégies de choix d'école de modifier les conditions de l'expérience. Hein, donc ça, c'est sur les conditions. Voilà. J'avais bon, dit un quart d'heure.
C'est bon. Parfait. Donc là, maintenant, on va voir donc, cette question, le thème d'une évaluation extérieure au Manfrenet. Et ça, je pense que c'est un des points très originaux. Je crois que c'est le seul exemple que moi, je connaisse en France, où il y a une évaluation, comme le soulignait Sylvain, au point de départ, et qui n'est pas dans une perspective de recherche-action, alors que généralement, quand il y a des chercheurs associés à une expérience pédagogique de ce type, ils sont partie prenante de la recherche. Donc on va demander à Isabelle de nous raconter comment.
Bonjour, donc Isabelle Delcambre, je fais partie de cette équipe de recherche en sciences de l'éducation, hein, qui s'appelle TEODIL, c'est-à-dire Théorie didactique de la lecture-écriture. Qui a été donc sollicité pour évaluer cette expérience scolaire. Alors effectivement, le protocole, comme le présentait Sylvain à l'instant, a été amplement fixé à l'avance et négocié hein, avec entre les chercheurs, l'inspecteur de la circonscription et les enseignants de l'école sur un certain nombre de points, comme la durée longue, hein, un engagement de suivre cette expérience pendant les 5 ans qui était le point de départ de, institutionnel, ce qui est relativement rare hein, dans les recherches éducatives, de pouvoir s'engager dans une recherche qui dépasse la durée courte ou la durée moyenne. C'était pour nous une chance extraordinaire de pouvoir être engagé dans ce processus de recherche sur 5 ans. La négociation donc des objectifs de la recherche avec un certain nombre de négociations par rapport à les objectifs de l'institution et nos objectifs à nous en tant que chercheurs, comme par exemple les négociations sur les thématiques de la recherche où on a accédé au souhait de l'équipe enseignante de d'aborder un certain nombre de thèmes comme par exemple les relations école-famille, mais par contre on a aussi pris des distances par rapport aux demandes de l'équipe enseignante. Que j'exposerai peut-être un petit peu en détail tout à l'heure. Par exemple, décider sur nos propres critères et nos propres objectifs de chercheurs de regarder tel type de production écrite des élèves et pas tel autre. Hein, ça a été un objet de négociation, de discussion entre nous, que par exemple de ne pas regarder ce qui se faisait en termes de production de textes libres, hein, qui est un dispositif très important dans la pédagogie freinée, mais de regarder ce que les élèves peuvent faire en compétences, quelles sont leurs compétences écrites, si vous voulez, sur d'autres types d'exercice que ce qui est spécifique à la pédagogie freinée et ainsi de suite. Et puis surtout ce statut de l'évaluation hein, dont Sylvain parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous nous sommes placés dans une logique de recherche en évaluateur externe et non pas en accompagnateur de cette expérience. Hein. C'est-à-dire, c'était pas du tout une recherche-action, c'était vraiment une recherche-évaluation avec le maintien d'une posture externe autant que faire se pouvait, ce qui n'a pas été toujours facile. Mais je crois que l'un dans l'autre, on a quand même assez bien réussi à tenir ce statut externe. Donc, nous sommes partis dans ce projet de recherche avec 3 grandes questions, hein, 3 grandes questions de recherche. Peut-on percevoir des changements dans les fonctionnements de l'école et dans les apprentissages des élèves? Quels changements et selon quelle temporalité, hein, puisque nous étions engagés pour 5 ans. Donc la question de la rapidité, du rythme des changements était pour nous une question importante. Hein. On a essayé de mettre en évidence ces rythmes, cette temporalité. Ensuite, quelles relations peut-on établir entre le mode de travail pédagogique instauré dans cette école? Hein, j'utiliserai souvent cette appellation qui vient des travaux travaux de Marcel Laine, le MTP, le mode de travail pédagogique, pour désigner la spécificité du travail dans les écoles selon les modes de travail pédagogique différents, justement. Alors, quelle relation entre ce mode de travail pédagogique et les éventuels changements constatés dans les apprentissages et dans les fonctionnements de l'école? C'était la deuxième question. Et la troisième question, qui était aussi une commande de l'institution, à savoir quelle est la part de transférabilité possible des dispositifs mis en œuvre. Question qu'on va aborder, je crois, encore demain matin ou demain après-midi. Voilà. Donc, l'équipe Théodile, les chercheurs de l'équipe Théodile qui se sont mobilisés sur ce projet de recherche étaient d'origine disciplinaire différente. En grande majorité des didacticiens du français, français écrit ou français oral, des maths, des sciences, de l'histoire-géographie, mais aussi une sociologue et deux psychologues des apprentissages, dont Maria Pagoni, qui est ici avec nous et qui parlera cet après-midi. Ça, Maria. Voilà, donc cette pluridisciplinarité était pour nous aussi quelque chose d'important. J'ai oublié, je crois, une sociologue. J'ai parlé de la sociologue ?
Oui,
oui, d'accord. Cécile Carra, qui a fait des études tout à fait intéressantes sur la sociabilité dans l'école. Alors, donc cette pluridisciplinarité était pour nous quelque chose de tout à fait important pour aborder une multiplicité de dimensions, regarder la constitution de cette école et son développement selon des axes les plus variés possibles. Par exemple, en abordant la question des relations entre l'école et les familles, en travaillant les rapports à l'école et au savoir, en essayant d'évaluer les apprentissages dans les différentes disciplines, en évaluant la construction des normes et des valeurs, etc. C'est pas vraiment, ça peut paraître éclectique comme type de point de vue sur l'école, mais en fait ça a été un parti pris de départ d'aborder le développement des apprentissages et la construction de cet environnement scolaire particulier sous des angles les plus variés possibles, avec cette hypothèse que selon les moments, selon les angles d'attaque, des choses différentes peuvent être vues et qu'on ne peut pas se situer entièrement au niveau des apprentissages, même si les apprentissages scolaires à proprement parler sont pour nous des choses absolument fondamentales. On est une équipe de didacticiens et c'est sûr que la mesure de l'évolution des apprentissages est pour nous quelque chose de central. Et d'ailleurs, c'est, je crois, une des spécificités de cette recherche que d'avoir aussi mis en évidence l'évolution des apprentissages, la modification du rapport aux apprentissages des élèves. Voilà. Donc ça, c'était un premier principe pédagogique, principe de recherche, appréhender un maximum de dimensions dans le développement de cette école. Le deuxième grand principe, ça a été la durée. Donc, qui nous était imposé, c'était le contrat de départ, mais en même temps c'était notre intérêt de profiter de cette occasion d'observer sur une durée longue pour suivre le devenir des élèves. Alors, donc on a, si vous voulez, trois objectifs à proprement parler par rapport à cette durée comme principe de recherche. C'est donc de pouvoir suivre des cohortes d'élèves du CP au CM2, éventuellement en anticipant un petit peu sur ce qui se passe en maternelle, en évaluant les effets possibles selon le temps d'inscription dans ce mode de travail pédagogique. Ce qui n'est pas facile à mener comme type de recherche, mais qui est tout à fait passionnant. Ça nous permet par exemple de déterminer ce que nous avons appelé des effets de seuil ou des effets de plafond, c'est-à-dire effets de seuil, à partir de quel moment des bougies apparaissent dans cette école. Par exemple, on a pu mettre en évidence des effets très rapides dès les premières 6 semaines sur les phénomènes de déviance. Effet seuil, donc à partir de quand hein, bouger ce produit. Effet plafond, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est à partir de quel moment un effet qu'on pourrait attendre ralentit. Hein, quels sont les ralentissements des évolutions ou des stagnations des évolutions. Hein, c'est par exemple des choses qu'on a pu mettre en évidence sur les productions textuelles au niveau du CM1, CM2, où il a fallu attendre peut-être 3 ans pour mettre en évidence des écarts significatifs par rapport à d'autres écoles. Hein. Voilà, donc effet seuil, effet plafond, qui permettent de mettre en évidence des rythmes des évolutions, hein, des rythmes différents selon les types d'observations et selon les types de problèmes. Ça, c'était le deuxième grand principe, gérer cette durée longue, hein, et essayer de la penser comme une des contraintes, si vous voulez, de notre recherche, un des contextes de cette recherche. Donc, la multiplicité des approches théoriques, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, un peu en sociologie, psychologie, didactique, et une multiplicité de techniques de recueil et de traitement des données. Alors, multiplicité des recueils de données pour essayer justement de pouvoir croiser, hein, pour se donner la possibilité de croiser des données différentes et essayer d'éviter un certain nombre de biais qui pourraient apparaître à partir, d'une certaine familiarisation des élèves avec certains types de données. Donc on a recueilli, par exemple, des observations de classe, courtes ou longues selon les cas, observations armées ou pas selon les cas, centrées sur les élèves ou sur les maîtres ou sur leurs interactions. Les interactions maîtres-élèves. Donc, des observations de nature extrêmement différentes, mais in situ, si vous voulez. On a aussi recueilli beaucoup de documents, recueilli et analysé des documents comme les règlements internes de l'école, les projets d'école, les articles écrits par les enseignants dans leur lieu de publication propre, etc. Nous avons bien évidemment recueilli énormément de productions d'élèves, des productions sollicitées par l'institution, les évaluations institutionnelles par exemple, des productions sollicitées par les enseignants, des productions également sollicitées par les chercheurs sur des consignes précises correspondant aux objectifs des uns et des autres, donc sur des tâches plus ou moins conventionnelles. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et puis, dernier type de données que nous avons recueillies, des déclarations, des entretiens, si vous voulez, hein, des déclarations sollicitées ou non, sous forme très cadrée par questionnaire ou par entretien, mais aussi nous avons pris en compte des informations qui nous venaient dans des conversations informelles, des échanges lors des réunions de travail, des rencontres avec des élèves. Nous avons interrogé bien évidemment les enseignants, mais aussi les remplaçants, les aides éducateurs de l'école, les maîtres du RASED, l'infirmière qui intervient dans l'école, le personnel de service, des parents, etc. Donc des données, donc sous forme d'entretien, de questionnaire, de nature extrêmement variée et qui essayent de faire un peu le panorama, si vous voulez, de tous les parties prenantes, tous les acteurs qui interviennent dans cette école. Voilà.
Je pose une question sur les observations in situ. C'était des prises de notes sur protocole, des enregistrements, des vidéos.
Il y a eu à la fois des prises de notes sur... Alors, protocole, pas... Il y a eu des protocoles d'observation, mais aussi des prises de notes, je dirais, extrêmement détaillées au fil de ce qui se passe dans la classe. Et oui, il y a eu des vidéos, hein, notamment... en maternelle, puisque j'en parlerai un petit peu cet après-midi, et en primaire également, il y a eu des vidéos. Voilà, et souvent des croisements entre les vidéos et les prises de notes, bien évidemment, parce que la vidéo permet d'apporter des compléments à ce que la prise de notes laisse filer, etc. Donc il y a eu alors je dirais chaque chercheur a eu sa propre méthodologie, en fait, hein. Hein, il y a eu je sais que moi, personnellement, travaillant en maternelle, j'ai recueilli des vidéos. Dominique Lahnier, notre collègue de mathématiques, travaille beaucoup par prise de notes. Elle a un système de prise de notes extrêmement efficace et très, très, très précis. Il y a eu aussi, j'oubliais ça, au point de départ, on a aussi voulu prendre des informations sur l'environnement même de l'école et les affichages dans les classes. France. Hein, c'était un projet qui a, que notre collègue qui est malheureusement décédé en cours de route, Francis Rouelland, avait mené, avait formulé au point de départ de photographier les environnements de classe, hein, au point de départ avant l'arrivée de cette équipe et puis au fur et à mesure. Mais il nous a quittés en cours de route. Voilà, donc sur les problèmes de recueil de données, oui, nous sommes une équipe fragile sur le plan de la santé. Mais bon, il y a heureusement quelques chercheurs qui sont encore valides. Oui, voilà. Alors, ça, c'était donc notre troisième grand principe, hein, recueillir le maximum de données différentes pour pouvoir effectivement les croiser et ne pas se centrer sur un seul type d'observation, un seul type de recueil, et surtout ne pas observer uniquement les élèves, hein, mais aussi aller voir tous les acteurs de cette école. Alors, le dernier grand principe, ça a été le statut de l'évaluation, hein, qui nous était demandé, avec ce refus, hein, d'une logique de recherche-action et au contraire un effort pour constituer une logique de recherche.